Bienvenue à Dis-moi, une série de podcasts présentés sur Mitsu Magazine avec des gens qui m'inspirent et que j'ai envie de mieux connaître en votre compagnie. Si je vous demandais quelle est votre époque favorite en mode, vous me répondriez peut-être les années 60 ou les années 80. Mais si je vous demandais quelle est votre époque favorite en mode québécoise, sauriez-vous me répondre? J'ai eu envie de le demander à Cynthia Cooper, chef collection et recherche conservatrice, costumes, mode et textile du musée McCord, qui a assuré la naissance de l'encyclo-mode QC, une ressource mode qui est vraiment unique au Québec. Bonjour Cynthia.
Bonjour Mitsu.
Je vais commencer en vous posant la question à vous. Quelle est votre période préférée dans la mode québécoise?
Je sais pas si c'est une question très difficile, hein. Parce que dans le fond, la mode québécoise a toujours suivi les tendances à l'international, mais il y a des événements ou des aspects de l'histoire du Québec qui fait que il y a des inflexions un peu différentes sur la mode ici. Alors moi, je pense que s'il y a une période que je trouve plus intéressante que d'autres, c'est peut-être les médias après-guerre, dans la fin des années 40, parce que le milieu de la mode à Montréal était plein d'optimisme. Et on disait là, il va y avoir un marché pour l'exportation, et puis on a tout ce qu'il faut à Montréal pour vaincre le marché nord-américain et même international. Ce qui est jamais arrivé, en fin de compte. Mais quand on lit les articles de journaux de l'époque où on voit des films créés spécialement pour promouvoir le design montréalais, c'est palpable. On sent cet optimisme, cette fierté dans la mode québécoise.
Puis ça ressemblait à quoi exactement comme mode à ce moment-là?
Dans le fond, et c'est peut-être pour ça que ça n'a jamais vraiment fonctionné, c'est en 1947 que Christian Dior a lancé la silhouette qu'on appelait « New Look », qui était une jupe assez longue, mi-mollet, avec une taille très, très cintrée. C'était une mode très romantique, très féminine par rapport à ce qui s'est porté pendant la guerre. Il y avait beaucoup d'événements, de soirées, d'événements mondaines dans cette époque-là, où on reprenait la vie sociale en grand après la guerre. Alors, il y avait des robes de soirée avec des grandes jupes à crinoline qui rappelaient le 19e siècle. C'était très, très romantique.
Puis en quoi la mode québécoise, à ce moment-là, se différait des autres tendances mondiales?
Oui. Bien, dans les tendances, c'était peut-être... ça ressemblait peut-être à ce qui se faisait ailleurs dans la mode, mais c'était dans l'effervescence qu'il y avait quelque chose de distinct. Alors, le Montreal Fashion Institute a été fondé en 1946 et c'est là qu'on a eu notre première semaine de la mode. Personne ne se rappelle de ça aujourd'hui. On pense que les semaines de la mode, c'était quelque chose qu'on avait innové dans les années 90. Mais on faisait ça même dans l'époque d'après-guerre immédiate. Il y a plein de faits surprenants dans l'histoire de la mode au Québec, comme celle-là.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surprise?
Souvent, on parle de l'exportation comme si c'était un objectif qu'on a enfin atteint, disons, dans les années 90, mais qu'on était sur une ligne ou un élan où on s'en allait vers l'exportation. Mais il y a des créateurs, des compagnies québécoises qui faisaient l'exportation bien longtemps avant.
Alors, tu peux m'en nommer?
Oui, Irving of Montreal, qui fabriqué des vêtements de ski qui étaient portés par des vedettes de Hollywood comme Norma Shearer. Il avait une longue liste de clientèles célèbres et c'est lui qui faisait les vêtements de ski pour les femmes aux Olympiques. Dans les années 1930 et 40. Alors aujourd'hui, on se rappelle plus de lui, mais c'était un grand nom à l'époque. C'était une compagnie montréalaise qui était vraiment une marque nord-américaine.
C'est parti d'où et de comment cette idée de l'encyclomode?
Alors en 2004, Gérald Barry a publié un livre qui s'appelait Le Dicomode, le dictionnaire de la mode au Québec. Moi, je faisais partie de son comité scientifique. Et puis après que le livre a été épuisé, Gérald m'avait parlé de sa déception que ce ne sera pas réimprimé, mais sa volonté de faire revivre le contenu ailleurs. Alors là, c'est comme ça qu'on a eu l'idée que si on avait le droit au contenu, qu'on pourrait le faire vivre au musée par une encyclopédie en ligne.
Quand on demande aux gens quel est le premier designer québécois d'importance, souvent les gens vont penser à Jean-Claude Poitras, mais il y a eu Michel Robidoux à une certaine époque, à l'époque 1967, qui a créé une marque, créé également un parfum avec Brunante. Beaucoup de mères portaient ça à l'époque.
Oui, c'est ça. Alors, à chaque époque, il y a toujours un nouveau cohorte de designers. Donc, dans les années 60, Michel Robichaud a fait l'uniforme pour les hôtesses d'Expo 67 et aussi pour la femme du maire Drapeau. Lui était très, très connu à cette époque-là. Ensuite, Jean-Claude Poitras, en allant vers les années 80-90, s'est fait beaucoup parler de lui. Mais c'est dans les tendances parce que la mode, c'est un domaine où on regarde toujours le présent et l'avenir. Si on veut survivre, on ne regarde pas le passé. Alors, on oublie très vite le nom des acteurs du passé, puis qu'est-ce qu'ils ont contribué à ce domaine-là.
Est-ce que c'est propre au Québec de faire ça avec ces designers?
Moi, je pense que c'est propre à la mode tout court, parce que c'est un domaine où il faut toujours être à l'affût de ce qui s'en vient, être le premier à se rendre compte de ce qui s'en vient ou quelle sera la tendance. Alors, je pense que c'est propre au domaine de pas vraiment valoriser son passé.
Mais on est bon là-dedans, pas se valoriser,
oui.
Par exemple. Je trouve, tu sais,
oui.
Bon, évidemment, en France, il y a toute une culture de la mode.
Oui.
Mais est-ce qu'on l'a ici? Parce que nos grands designers, j'ai l'impression qu'on les a oubliés. Et c'est pour ça que vous avez fait donc ce site web.
Oui.
Encyclomode QC.
Oui. Alors, ce qui arrive en France, c'est qu'il y a des entreprises qui ont tellement une longue histoire. Et leurs produits, ce qu'ils font est très important dans l'économie française. Alors, dans la période dont je viens de parler, les médias après-guerre, les vêtements de Christian Dior étaient évalués à comme 5 % des exportations de la France. Alors, le pouvoir économique de ces compagnies-là est énorme. Au Québec, ce n'est pas le cas. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne valorise pas le passé de cette industrie-là. Aujourd'hui, ces compagnies-là de haute couture se rendent tous compte de l'importance de leur histoire et sont tous en train, s'ils l'ont pas déjà fait, de créer un service qui s'appelle Héritage, qui conserve les archives de la marque, qui conserve les vêtements pour inspirer les designers futurs pour qu'ils puissent continuer à créer dans l'image de la marque.
J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller voir pour reconnaître des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents.
Oui, bien, on l'espère. Et d'ailleurs, c'est une de nos sources très importantes parce que faire l'histoire de la mode, c'est vraiment pas évident. Souvent, on n'a pas conservé grand-chose qui témoigne de l'activité d'une compagnie ou d'une marque. Mais des fois, c'est les enfants des créateurs qui conservent, qui veulent que la mémoire de leurs parents soit conservée. Alors, dans quelques cas, pour quelques entrées, oui, c'est des membres de la famille qui ont été très...
généreux.
De service, oui, et généreux pour nous aider à faire les histoires. D'autres fois, c'est les designers eux-mêmes qui ne travaillent plus, mais qui ont envie de voir leurs archives conservées. Un auquel je peux penser, dont on parle dans l'Encyclomode, c'est Claude Gagnon. Alors, Claude Gagnon, aujourd'hui, on l'oublie peut-être, là, au moins qu'on était vraiment au courant de la mode entre 1982 et 87, quand lui travaillait. Mais c'est lui qui a changé l'image de Céline Dion pour la première fois lors d'un gala Félix où elle avait 17 ans, puis lui a créé une robe qui faisait vraiment très mode et très adulte. Cette robe-là avait fait fureur. Les gens soit l'adoraient, soit l'aimaient pas du tout. Et alors, lui a eu tellement de succès par la suite que 2 ans plus tard, il n'arrivait pas à remplir ses commandes ou trouver le financement pour remplir ses commandes. Alors, il a dû lâcher son entreprise éponyme où il faisait des collections à son nom, puis travailler pour d'autres manufacturiers. Il a quand même fait une longue carrière dans la mode, mais alors c'est grâce à lui-même qu'il nous a donné ses archives qu'on peut conserver la mémoire de ce que lui avait fait et puis l'intégrer à l'Encyclomode.
Il y a beaucoup de talents qu'on oublie. Je pensais aussi, en venant ici, à Jean Héroldi, qui, oui, pendant des années, dans les années fin, oui, 80, début 90, avait pignon sur rue, sur la rue Saint-Denis, oui, entre autres. Et puis, c'était le designer hot avec Andy Théan aussi.
Oui, oui, oui. Alors, c'est ça, c'est deux noms. Effectivement, c'est des gens qui ont passé à autre chose. Andy Théan est toujours dans l'industrie, mais à New York maintenant, je crois.
Non, Andy Théan, en fait, travaille pour Additionnel maintenant.
Ah oui?
Oui,
okay.
Oui. C'est okay. Nouveau.
Alors, ça amène un des défis d'une encyclopédie, c'est comment la garder à jour. Alors, nous, on l'a créé pour que, à l'intérieur de toutes les fiches, le public pourrait nous contacter s'il voit qu'on a besoin d'une mise à jour.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la mode, Cynthia Cooper?
Oui, c'est sûr que c'est une histoire qui peut être assez longue, mais comme la plupart des gens dans ce domaine-là, je sais que j'adorais le textile depuis un très jeune âge et on me compte comment je pliais les serviettes et les débarbouillettes avec amour là quand j'avais 3 ans. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les vêtements, j'ai fabriqué mes vêtements moi-même là à partir de l'âge de 12-13 ans, je faisais pas mal tout mon linge. Au moment d'aller à l'université, j'ai fait mes études dans un autre domaine complètement, mais je suis revenue au dessin de mode pour des cours du soir, simplement par intérêt personnel. C'est là que j'ai pris un cours sur l'histoire de la mode et là, ça m'a émue profondément parce que je me dis, la mode, ça donne accès à toute l'intimité de la vie par le passé. C'est l'histoire de comment les gens veulent être perçus, comment qu'on se présente en public. C'est l'histoire économique, esthétique, mais aussi très intime et personnelle. Et puis quand on est près des vêtements d'époque aussi, il se dégage tellement d'informations quand on regarde un vêtement. On sent l'aspect tactile, on sent la personne qui l'a porté, on sent la personne qui l'a fabriqué. C'est vraiment une lentille, si on veut, qui nous donne une vision d'un autre aspect du passé qu'on ne peut pas avoir autrement.
J'adore cette histoire-là.
Ah, oh, merci.
C'est bon. Mais ça a l'air que vous avez une surprise pour moi.
Oui, enfin, moi, j'étais conservatrice d'une exposition qu'on a présentée en 2017 qui s'appelle Mode Expo 67. Alors, j'étais très intéressée par les uniformes d'hôtesse. C'était une grosse partie de l'exposition et on en a plusieurs au musée. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait 90 pavillons. Il y avait bien plus d'hôtesse que les uniformes qu'on avait. Alors, je me suis mis pour tous les pavillons où un créateur québécois avait fait l'uniforme. J'ai essayé d'identifier qui étaient les hôtesses par des images qu'on trouvait dans les journaux ou des fois on trouvait un nom. Si c'était un nom ordinaire comme Jeanne Tremblay, je ne pouvais habituellement pas trouver la personne, mais si c'était un nom qui sortait un peu de l'ordinaire, là, je faisais sur Internet des recherches pour essayer de trouver la personne. Des fois, j'ai trouvé plusieurs hôtesses dans des pavillons différents qui sont venues au musée me parler de leurs expériences comme hôtesses. Et puis, dans 2 cas, elles avaient encore cet uniforme et elles en ont fait don au musée. Alors, ça, c'était extraordinaire. Et je m'intéressais beaucoup aussi à l'expérience des hôtesses de couleur. Parce que, pour autant qu'on disait qu'Expo 67 était un événement qui célébrait la diversité, où on a montré la diversité aux Canadiens, je trouvais qu'en termes de, des hôtesses dans les pavillons, c'était toutes des femmes blanches. Alors, j'avais découvert une image des hôtesses de, du pavillon de la jeunesse. Et puis, j'ai pu en identifier deux par nom. Et il y avait une hôtesse qui a capté beaucoup mon attention. Puis, en fin de compte, j'ai su que son nom était Marie-Claire Zéphirin. Mm-hmm. Et puis, juste avec des recherches, des petites brins d'informations, j'ai comme su qu'elle s'est mariée à un monsieur Martin et que son fils serait peut-être Johan Martin.
Donc, alors, vous avez une photo de ma belle-mère en 1967. Oh, wow! Quelle est belle! Avec les mêmes petites jambes, toi. Elle était connue, elle est connue, oh, ma oui. belle-mère, pour avoir des belles jambes, mais là, on le voit. Oui. Quelle est cute, c'est incroyable. Merci infiniment d'être passée aujourd'hui et puis longue vie à cette encyclopédie.
Merci, merci, Mitsou.